בוקר טוב, שבוע טוב לכולם, שבוע טוב, בוקר טוב, הנה. הופלה.
Durant le deuxième cours. Ensuite, on a expliqué quels étaient, au quatrième cours, on a expliqué quels étaient, et au niveau de la halakha, est-ce que le troisième temple, il faudrait le construire ou est-ce qu'il va tomber du ciel? Et enfin, dans le cinquième cours, on a expliqué quels étaient le déroulement des journées spéciales des fêtes au Bet Amikdash. Et donc, eh bien, aujourd'hui, j'aimerais qu'on termine notre étude, notre rétrospective Beth Amikdash, avec un sujet brûlant, un sujet totalement actuel, la question du Har HaBayit aujourd'hui. La question de le fait que les Juifs veulent ou pas monter sur le mont du Temple aujourd'hui. Et c'est une véritable question, évidemment, vous vous en doutez. C'est une véritable question, pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi c'est une véritable question. C'est une véritable question parce que, eh bien, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure de l'histoire, je parle des 2000 dernières années, depuis la destruction du Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la situation va grandement évoluer. On ne peut pas dire qu'on est tout le temps sur la même longueur d'onde. À savoir, est-ce que les Juifs vont là-bas, est-ce que les Juifs ne vont pas là-bas? Alors, tout de suite, je vais mettre de côté tous les moments historiquement parlant où les goïms ne nous ont même pas laissé le soin de nous poser la question. Il y a eu des périodes dans l'histoire où les non-juifs ne nous ont pas laissé, où c'était eux qui dominaient Israël, et ne nous ont même pas laissé imaginer possiblement pouvoir peut-être aller sur le mont du Temple pour y prier. Donc, toutes ces périodes-là ne rentrent pas dans notre discussion de ce matin, puisque, de toute façon, qu'il y ait une mitzvah, qu'il n'y ait pas de mitzvah, qu'il y ait un interdit ou pas d'interdit, ça ne changeait pas grand-chose, puisque les goïms ne nous laissaient pas y aller. Il va falloir, par contre, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les différentes époques où soit les goïms nous ont permis d'y aller, ou aujourd'hui, lorsque maintenant les patrons du mont du Temple, eh bien, ce sont les juifs, depuis la guerre de 1967, où on a prononcé cette phrase « Har HaBayit Beyadenu ». Donc il va falloir qu'on essaye de comprendre un petit peu de ce que le Kotel, vous comprenez bien que le Kotel n'est pas à proprement parler un endroit saint, on l'a déjà expliqué dans les précédents shiurim, le Kotel n'est que le mur de soutien de l'esplanade sur laquelle était le Beth Amikdash numéro 2. Et donc, il est évident que Har HaBayit, Zeh HaMakom HaKadosh. Zeh HaMakom HaKadosh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour cela, il va falloir un tout petit peu aujourd'hui rentrer dans du concret, dans de la halakha. Alors, d'abord, il faut savoir que la Mishnah, évidemment, la Mishnah dans Maseret Midot, au deuxième chapitre, nous explique que le Har HaBayit, qui a une certaine dimension de Kedusha, c'est 500 amot sur 500 amot, en gros 250 mètres sur 250 mètres. Un gros carré comme ça de 250 mètres carrés. Maintenant, top, il y a fait mode, c'est pas mal. Nahon, c'est pas mal. Mais il faut bien comprendre que dans ces 250 sur 250, eh bien, il n'est un renseignement jusqu'à quelle époque les Juifs priaient sur l'Arabaït et ont commencé à prier en bas devant le Kotel. Justement, ça dépend. C'est pas jusqu'à quelle époque. Comme j'ai dit, il y a des époques où on nous a permis, il y a des époques où on ne nous a pas permis. Donc, si tu veux, les époques où on nous a permis d'y aller, eh bien, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on y a été ou est-ce qu'on s'est contenté du Kotel? Et dans les époques où on n'a pas pu y aller, on s'est recroquevillé sur le Kotel. D'accord? Donc, venez, on va aller voir les athlètes. Mais d'abord, petite précision. Quand on parle du Har HaBayit, eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a dans la halakha, trois dimensions de Kedusha dans le camp d'Israël. Ça remonte déjà à la Torah. La Torah nous explique que le camp d'Israël était divisé en trois machanot. Trois machanot, alors tout d'abord, Machane Israël, ensuite on a Machane Leviya, et ensuite Machane Shrina. Alors, c'est quoi cette histoire? Machane Israël, Machane Leviya, Machane Shrina. Alors, je vous explique. C'est pas très compliqué, en fait. À l'époque du Beth Amikdash, enfin, à l'époque du Mishkan, c'est-à-dire à l'époque du désert, Machane Israël, c'est là où il y a le camp d'Israël. Pour y accéder, tu peux y accéder. C'est-à-dire, l'homme échané, quelle est ta condition, tu peux accéder là-bas, sauf celui qui est tsaroua. Celui qui était atteint de lèpre à l'époque, c'est le seul qui était exclu de Machane Israël. Ok, Mais quelqu'un qui avait été en contact avec un mort, quelqu'un qui avait ses règles, quelqu'un qui avait eu des éjaculations nocturnes et ainsi de suite, qui serait tamé d'une autre manière, eh bien lui, il peut être dans Machane Israël. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait Machane Lévia, le camp des Lévim. Et dans ce camp des Lévim, eh bien toute personne qui est tamée, mette, c'est-à-dire qui a été en contact avec la mort, qui a touché un mort ou dans une pièce où il y avait un mort, et ainsi de suite, eh bien, celui-là, il pouvait y être. Par contre, s'il était atteint d'une autre touma, comme j'ai dit, les menstruations, les éjaculations ou d'autres choses comme ça, qui sont des toumaot qui sortent du corps, eh bien, à ce moment-là, il n'a pas le droit d'aller dans le Machane Lévia, il doit tout d'abord aller au Mikvé, se purifier de ces différentes impuretés. Et enfin, il y a le Machane Shrina. Machane Shrina, c'est dans le Ohel Moed, dans le Mishkan. Eh bien, dans le Mishkan, tu ne peux rentrer que si tu es Tahor, les Gamré, c'est-à-dire que tu es complètement pur, que tu as donc été aspergé des cendres de la vache rousse ou que tu n'as pas été en contact avec un mort. Et donc, à ce moment-là, tu peux rentrer dans le Machane Shrina. Ça, c'est pour ce qui est de la différence à l'époque du Mishkan. Cette différence-là de trois machanot, eh bien, revient également au niveau de la Mishnah dans le pays d'Israël. Une fois qu'on est rentré en Israël, qu'on a construit le Beth Amikdash, eh bien, il y a toujours cette division en trois machanot. Alors, Machane Israël, c'est Yerushalayim Shebetoch HaChoma. C'est-à-dire, c'est la Jérusalem qui est dans les murailles de la Jérusalem, de la vieille ville. Alors attention, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit absolument pas ici de la vieille ville de Jérusalem, des murailles que nous on connaît, des murailles qui ont été créées en 1517, parce que c'est magnifique. Et évidemment que ce n'est pas de ces murailles-là dont on parle. On parle des murailles du deuxième temple. Alors on va pouvoir débattre, est-ce qu'on parle de la muraille de Hachmonaïm, est-ce qu'on parle de la muraille de Hérode, ou est-ce qu'on parle de la muraille de Agrippas, l'homme échané, pour nous, là ce matin, ce n'est pas très important, on va dire que voilà, c'est la vieille ville de l'époque du Second Temple qui est considérée comme étant Machane Israël. Et donc, dans cet endroit-là, peuvent résider toute personne, même qui serait impure, à l'exception de ceux qui seraient Tsaroua. Et on peut manger certains korbanot dans cette partie-là qui s'appelle Machane Israël, donc dans Jérusalem, dans les Chomot. Après, il y a Machane Lévia et Machane Shrina. Eh bien, Machane Lévia, quand on est rentré à Jérusalem, tout ça, eh bien, c'est le mont du Temple qui va, cette dimension de Machane Lévia englobe donc tout le Harabait, le Sorag, le Chel, c'est-à-dire cette muraille autour du Beth Amikdash, jusque-là, les goïms peuvent également arriver après, non. Et également ce qu'on appelle Ezrat Nashim, qu'on avait expliqué dans nos différents Shiurim. Et donc, jusque-là, ça s'appelle Machane Lévia. Et pour reprendre donc la halakha, eh bien, ils peuvent rentrer dans le Machane Lévia toute personne qui a été au Mikvé, qui n'est pas impure, des tumot, des impuretés qui sortent du corps, mais il peut, s'il est tamémet, qu'il a été en contact avec la mort et qu'il n'a pas été aspergé des cendres de la vache rousse, alors il peut rentrer quand même dans Machane Lévia. Machane Shrina, eh ben, c'est quand on rentre plus en profondeur dans le Beth Amikdash, qu'on appelle Ezrat Israël, la Hazara, Ezrat Kohanim, dans le grand bâtiment qui s'appelle Eichal, et évidemment, dans le Kodesh à Kodeshim, tout ça, c'est ce qu'on appelle Machane Shrina. Et donc, pour y pénétrer, je ne parle même pas du Kodesh et du Kodesh à Kodeshim, où seuls les Kohanim ont le droit de rentrer, le Kohen Gadol, pour le Kodesh à Kodeshim. Je parle ici de Ezrat Israël, en fait, c'est ça qui nous intéresse plus. Là où on faisait les Korbanot, là où il y avait le Mizbéar, eh bien là-bas, pour pouvoir y rentrer, il faut avoir une dimension de pureté totale, c'est-à-dire avoir été également aspergé des cendres de la vache rousse. Vous comprenez donc qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les choses sont assez simples. On va voir qu'on va les compliquer, évidemment, mais les choses sont assez simples parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, puisque la lèpre n'existe plus, n'importe qui peut aller à Jérusalem. Ça voudrait dire que toute personne qui a été strampée au mikvé et qui a fait attention depuis son mikvé jusqu'au moment où il déciderait de monter sur Har HaBayit, eh bien, ne s'est pas trouvé en contact avec quelque chose d'impur ou lui-même n'a pas été victime d'impureté, eh bien, il pourrait donc y monter. Et personne, puisque personne n'a été aspergé des cendres de la vache rousse depuis pas mal d'années déjà, personne ne pourrait rentrer dans le Mahane Shrina aujourd'hui. Alors ça, c'est dans la théorie. Le problème, c'est que les choses se compliquent pour une raison très simple. Est-ce qu'on sait exactement où sont les choses? Et c'est là toute la question et c'est ça tout le problème. Est-ce qu'on sait exactement où se trouvent les différences? Alors bon, pour ce qui est de entre Mahane Israël et Mahane Levia, ben c'est pas très compliqué aujourd'hui. Ce qui est en bas du Har HaBayit, c'est les Mahane Israël, c'est la Jérusalem. Ce qui est au-dessus, c'est-à-dire ce qui est le mont du Temple, ben c'est le mont du Temple. Donc ça, a priori, c'est pas chout. La question, maintenant, elle va être la première, de savoir est-ce qu'on sait où c'est. Mais, c'est où est la différence entre Mahane Levia et Mahane Shrina. Mais en vérité, avant de se poser cette question-là, de savoir est-ce que on sait où est la différence et donc est-ce qu'on sait où on a le droit d'aller avec Mikvé et on n'a pas le droit d'aller avec Mikvé, eh bien, il y a une autre question qu'on doit se poser, une question préalable. Et c'est quoi cette question préalable, Rabotai? Eh bien, c'est de savoir, mais attendez, Rabotai, il n'y a plus de Bet Mikdash. Donc, peut-être que comme il n'y a plus de Bet Mikdash, eh bien, peut-être que ça veut dire que on n'a pas besoin de faire attention à tout cela, puisque peut-être qu'il n'y a plus de Kdusha s'il n'y a plus de Bet Mikdash. C'est une bonne question. Eh bien, cette question va y répondre le Rambam. Le Rambam, par exemple, va nous expliquer que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas, puisque le Rambam nous dit, dans Ilchot Bet HaBechira, dans les lois sur le Bet HaMikdash, il nous dit cette phrase, Ubeman nitkadesha bikdusha rishona shekidsha shlomo, sheu kidesh ha'azara ve'yushalayim nesha'atan ve'kidshan la'atid lavo. C'est-à-dire, nous dit le Rambam, la Kedusha qui a été mise dans le Bet HaMikdash lorsque Shlomo a mis en place le Bet HaMikdash, eh bien, c'est une Kedusha qui règne non seulement pour le premier Bet HaMikdash, mais qui réside également l'Ati de Lavo pour toutes les générations. Ainsi, les Tosafot, le Ritva, enfin, plein de Rishonim qui sont dans la vie du Rambam, disant que la Kedusha qui a été mise en place à l'époque du premier temple, eh bien, réside encore aujourd'hui. Le Tabéchira, chapitre 6, nous dit bien que les murs du Bet HaMikdash soient détruits, eh bien, ils résident encore dans leur pleine Kedusha. Et donc, selon le Rambam et pas mal d'autres Rishonim, eh bien, la dimension de Kedusha continue à résider, et donc il va falloir, bah oui, savoir où sont les différents endroits, Mahane Levia, Mahane Shrina, et ne pas transgresser les halakhot. Je rappelle que rentrer dans le Bet HaMikdash ou dans la dimension de Kedusha alors que tu ne peux pas, c'est quand même, et que tu es, c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait Bémézid, c'est quand même quelque chose qui est du domaine de Issour Karet. Donc, c'est pas de les blagues. OK? Cependant, eh bien, il y a un grand commentateur qui est toujours en discorde avec le Rambam, qui s'appelle le Ra'avad, Rabbi Avraham Ben David. Lui, il pense que pas du tout. Il pense que la Kedusha n'est plus là quand il n'y a plus de Mikdash. C'est-à-dire, pour lui, évidemment, que Shlomo a mis en place la Kedusha pour l'éternité. Mais pour l'éternité, quand il y a des murs. Quand il n'y a pas de murs, il n'y a pas de Kedusha. Donc, il semblerait, d'après l'avis, eh bien, du Ra'avad, que on a le droit de rentrer n'importe où dans le monde du Temple, y compris dans les endroits qui seraient le Kodesh HaKodeshim. De Kedusha, eh bien, il n'y a plus de problème. Alors, vous voyez bien que c'est une marloquette, évidemment, ben, ce ne serait pas drôle. C'est une marloquette, mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Eh bien, Rabotai, pour comprendre qu'est-ce qu'il en est concrètement, il faut essayer un tout petit peu de se rendre compte où sont les choses. Et en fait, eh bien, on va se rendre compte que pour la majorité des rabbanim de l'époque, eh bien, il semble assez évident que le Bet HaMikdash se tenait, alors où exactement? Eh bien, sur le sud-ouest, ah, oui, du Mont du Temple, sud-est, sud-ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pense que vous avez tous en tête une photo satellite, évidemment, du Har HaBayit actuel, du Mont du Temple actuel. Et vous avez donc, eh bien, Kipata, c'est là, le Rav Goren a pris des mesures. Attendez, j'y arrive au Rav Goren. Deux secondes, tu as bien raison, bien sûr, mais tu imagines bien que je ne vais pas parler de ce sujet-là et ne pas parler du Rav Goren, bien sûr. Bekitsour, et donc vous avez au centre du Harabait, vous avez Kipata, c'est là, ce dôme doré, Kipata, c'est là le dôme doré, quoi. Eh bien, selon la majorité soit des chercheurs, soit des rabbanim, il semble que ce soit bel et bien là, sous Kippat HaSela, qu'avait été entreposé le Kodesh à Kodashim. Ainsi, eh bien, on peut savoir où est le reste du Bet HaMikdash, puisque le Kodesh à Kodashim est la fin ouest du Bet HaMikdash, et le Bet HaMikdash étant d'est en ouest, c'est un rectangle qui va aller donc du Kippat HaSela vers l'ouest. Ce qui veut dire qu'une énorme partie du sud du Harabait ou du nord du Harabait, c'est-à-dire tout l'endroit à côté de la mosquée de Al-Aqsa, ou tout l'endroit de l'autre côté où il y a des arbres plantés, eh bien, il semblerait assez évident que ce ne soit pas là que se trouvait le Bet HaMikdash. Donc, ça veut dire que ce serait Harabait, Mahane Levia, comme on a dit tout à l'heure, mais qu'on n'ait pas de problème à se poser les questions. Mais encore une fois, reste la question de savoir, ok, maintenant que je sais plus ou moins où est le bâtiment du Bet HaMikdash, est-ce que je sais exactement où sont les différences entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël? Eh bien, c'est là que arrive le Rav Shlomo Goren. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le Rav Shlomo Goren, après la guerre des six jours, après qu'il y ait la conquête du Harabait, eh bien, le Rav Goren va tout simplement ordonner à Tzahal de faire des mesures strictes sur toute la surface du mont du Temple. Des mesures fidèles, évidentes, avec des moyens de mesure modernes qui vont nous permettre de cartographier effectivement tout le mont du Temple comme il se fait. On verra qu'à ce moment-là, le Rav Goren a sorti un livre effectivement très lourd de 500 pages à peu près qui traite de toutes les mesures et dans lesquelles il va expliquer, selon son avis, mais j'y reviendrai, qu'on a tout à fait le droit, donc, en respectant la halakhot évidemment, déjà par d'autres rabbinim avant et par d'autres chercheurs également avant, juifs ou non-juifs. Donc on a pas mal de mesures. Il est assez intéressant, fou, de voir que les mesures effectuées par le Rav Goren correspondent pratiquement à 100% à ce qui est marqué dans le livre de Maseret Midot dans la Mishnah. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Maintenant, j'ai envie de poser une question subsidiaire. Vazma, nous, Bémet, c'est important de monter au Bet HaMikdash, de monter au Harabait. Quand il y a le Bet HaMikdash, je comprends qu'il y a une mitzvah trois fois rang d'aller au Bet HaMikdash. Shalosh parmi Bashana Yirekol Zechurat, Venea Adon Hashem, mais c'est quand il y a le Bet HaMikdash. Quand il n'y a pas, qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement? Eh bien, il y a, mes amis, 5 mitzvot que nous pratiquons lorsque nous montons sur le Harabait, si on a le droit. Ça veut pas dire c'est pas parce qu'il y a une mitzvah que tu as le droit de la faire. Peut-être qu'il y a une mitzvah, mais que pour l'instant, pour plein de raisons, tu peux pas la faire. Mais il faut savoir que quand on monte sur le Harabait, eh bien, il y aurait a priori 5 mitzvot que l'on fait à ce moment-là. La première mitzvah, c'est quoi? Ve'orashtem et haaretz. La mitzvah de conquérir la terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est une mitzvah qui a été mise en place dans par exemple, le Ramban, enfin, que c'est véritablement une mitzvah. Donc, la mitzvah de prendre possession de la terre d'Israël. Lorsqu'on monte sur le mont du Temple, eh bien, on montre notre prise de possession là-bas. On dira tout de même que le Rav Tzvi Yehuda Kouk disait que le simple fait que la police israélienne soit le maître des lieux sur le mont du Temple, eh bien, fait en sorte que cette mitzvah, on l'a fait, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas. Mais c'est une mitzvah, donc, ve'orashtem et haaretz. La deuxième, ve'lotechonem. Qu'est-ce que c'est l'otechonem? C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de laisser aux non-juifs un endroit où ils seraient les patrons en Eretz Israël. Et donc, l'otechonem, lorsque tu montes sur le Harabait et que tu montres que c'est toi le patron, eh bien, tu réalises la mitzvah de l'otechonem. Là encore, le Rav Tzvi Yehuda dira que cette mitzvah est réalisée par le simple fait que l'al du collectif et pas forcément de l'individu. Il y a une troisième mitzvah qui s'appelle le shichnot idreshu vatasham. Ah, shel binyan bet hamikdash. Nous avons une mitzvah Bah, simplement de construire le Beth Amikdash. Et pour le faire, il faut le mont du Temple. Donc, aller sur le mont du Temple, c'est commencer à réaliser les préparatifs, si vous voulez, de la mitzvah de Binyan Beth Amikdash. Il y a de la construction du Temple. Il y a donc une quatrième mitzvah qui s'appelle Ovdehu Bemikdasho. C'est ce qu'on appelle la tfila. C'est-à-dire, c'est quoi la tfila ? Nous dit, c'est le Rambam le compte comme étant la cinquième mitzvah assez dans son livre de Sefer HaMitzvot, il nous dit Va mitzvah chamishit ishetzivanu leovdo itale, veomro, ovdehu betorato, ovdehu bemikdasho. Kelomar, la lechet sham leitpalel bo venegdo. Kemo shebier shlomo aleinu alav shalom. En d'autres termes, nous avons une mitzvah de faire la tfila au Harabat. C'est la quatrième mitzvah qu'on peut réaliser là-bas, et une cinquième mitzvah qui s'appelle Mora Mikdash. Mora Mikdash, c'est-à-dire faire preuve de Yira quand on a. C'est quelque chose que tu. Cinq mitzvot, deux des cinq. Donc, si Yehuda a dit qu'on n'a pas besoin d'y monter puisque le simple fait que la police y soit, eh bien, ça règle le débat. Et il y a également trois mitzvot qui sont des mitzvot que nous devons réaliser encore aujourd'hui. OK ? Donc, ça, c'est pour ce qui est des mitzvot qu'on pourrait réaliser là-bas. Mais est-ce qu'on a le droit d'y aller puisque exactement où c'est qu'on a dit ça ? Eh bien, à Bataille, c'est là qu'il va falloir commencer à remonter dans l'histoire. Et oui, parce que si on va un petit peu dans l'histoire, on va se rendre compte que ce n'est pas évident du tout que pendant toutes les générations, les rabbins étaient clairs. Parce qu'aujourd'hui, tu demandes à un rabbin mainstream, il va te dire, on n'a pas le droit de monter au mont du Temple. Seulement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé un petit peu avant aujourd'hui, eh bien, on se rendra compte bon, pendant toutes les générations où les goïms nous ont permis, les juifs montaient sur le Haravait. Là, je ne te parle pas de halakha, je te parle de faits historiques. Par exemple, quand on regarde dans le Talmud de Babylone et dans les Midrashim de Chazal, eh bien, on va se rendre compte que les Tanaïm avaient l'habitude d'aller sur le Beth Amikdash, enfin, sur le Beth Amikdash, à l'endroit du Beth Amikdash. Par exemple, il est marqué dans le Midrash Eliyahu Rabba au chapitre 28, nous dit Chouf pa'amachat nichnas rabin natan le Beth Amikdash, le mekom Beth Amikdash, ou matza Beth Amikdash charev, והכותל אחד אומר, אמר, מה הציבו של כותל זה? אמר, אחד. זאת אומרת, on voit ici que, par exemple, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Nathan, parmi les Tanaïm, qui est rentré à l'endroit des ruines du Beth Amikdash. On voit Rabbi Tzadok qui rentre à l'endroit du Beth Amikdash et qui a dit, Avinu Shebashamayim, echavta et irecha, vesarafta et echalecha, veshavta shalva, veshakata. C'est-à-dire que tu as laissé tout ça être détruit et maintenant tu te tais. De ce qu'on peut voir donc dans le Midrash Eliyahu Rabba et dans la Gemara, eh bien on se rendra compte qu'à l'époque des Tanaïm, je ne vais pas dire des Amoraïm, parce que très vite à l'époque des Amoraïm, les Goïm ne nous ont plus permis d'aller là-bas. Les Byzantins, Rechaïm, Shev Rechaïm Irkam, eh bien, ne nous ont pas laissé y aller. Mais on voit qu'à l'époque des Tanaïm, eh bien, les gens y allaient. Alors évidemment, ce sont des Tanaïm, ils sont Bigdusha, Betahara, ce que tu veux. Mais ils n'avaient pas peur de « je ne sais pas où sont les limites, j'ai le droit donc d'y aller ». Évidemment qu'ils étaient tous en état de « ils avaient été au mikvé, ce que tu veux ». Mais on voit que les gens avaient l'habitude d'y aller. On va voir plus tard, lorsque, après la période byzantine, arrivent les premières périodes musulmanes, eh bien on se rendra compte qu'après les croisés, après la période, comme j'ai dit, c'est rare, des Byzantins, voilà, merci, je cherchais le nom. Au 7e siècle, les Juifs ont eu la permission d'aller construire sur le mont du Temple une synagogue et d'aller y prier. Ça ne dérangeait pas les musulmans. Et il y avait donc une bête Knesset, mamache, sur le Harbaït, et les gens allaient y prier. Évidemment, c'est un endroit qui est assez excentré dans le Harbaït, et donc. Il semblerait, comme on a dit tout à l'heure, qu'il n'y ait aucune chance que ce soit là-bas qu'il y avait le Beth Amikdash, mais c'était tout de même Harabait, ce qu'on appelle Machane Levia, je vous le rappelle. Évidemment que lorsque les croisés sont arrivés, ça a été arrêté, bien sûr, c'est marrant. Mais lorsque il y a eu d'autres dominants qui sont arrivés ici, eh bien, on a vu que d'autres personnes ont commencé à venir. Velemachal, nous dit, Rabbi Abraham Bar Chia Nassim Bar Megale, il nous dit que les Ishmaélim, donc on est à l'époque juste après les croisades, on est à l'époque de, du début des Mamelouks, il dit les Ishmaélim, natnu lanu minag tov, ve Yeshua Israël, lavo el bet Hashem, ve livnot bo bet tfila u midrash, ve ayu kol galuyot Israël, akrovim el habayit, haolim elav, bechagim, ve moadim, mitpaelim betocho. C'est-à-dire, nous dit Rabbi Avraham Bachia Nassim Barcelona, que c'était le minag, clair au 12e et au 13e siècle, que, eh bien, on pouvait monter, prier sur le mont du Temple et que les Juifs le faisaient. Ainsi écrira le Meiri, ou minag pashut li kanes sham le fim ashe shamanu. Ouais, tout le monde le fait. De la même façon, eh bien, nous avons le témoignage du Kohen Agadol du 12e siècle, hein, évidemment. Kohen Gadol, bien sûr, mais Rabbi Yonatan Akoel Milunel, de Chachmé Lunel, qui lui aussi, dans sa visite ici en Eretz Israël, eh bien, est venu. Et il est venu à l'intérieur du Harabait, à l'endroit du Beth Amikdash, de ce qu'il pensait. Il a prié là-bas. De la même façon, le Ritbaz, Ken, Rabbi David Ben Zimra, nous dit dans son Shelot Utshuvot que Yesh la tête Tam le Minak Shenagu Kola Olam, la Alot Beotama Aliyot. Donc on voit qu'il y a pas mal de gens qui avaient l'habitude d'y aller. Ainsi dira le Admour de Cloisenburg, Rabbi Ekoutiel Yehuda Alberstadt, il dira chez Bedorot Arishonim, lo haya mi she'ya'akev be'ad b'nei Israël et ha'knisa elav. V'ayu mi she'alu le'itpalel be'arabait ad agvul she'aya yadu alahem be'berur she'sham mutar l'tmei metim le'geshet ve'litkarev. Nous dit, donc le Admour de Cloisenburg nous dit, ça a toujours été comme ça que les Juifs, ils montaient sur leur Harabait pour prier jusqu'aux endroits où ils savaient que c'était moutard et là où c'était interdit, ben, ils n'allaient pas. En bataille, je rappellerai simplement que parmi ces géants qui sont venus visiter en Eretz Israël ou qui sont venus vivre en Israël en Mishané, ben, parmi eux, il y en a un que vous connaissez très bien, il s'appelle le Rambam. Le Rambam, en bataille, eh ben, est venu au Harabait. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même dans le Sefer Haredim. Ken, il dit tout simplement, dans la fin du pérouche du Rambam sur le Masoret Rosh Hashanah, il dit Venichnasti le Bait Agadol va Kadosh v'itpalal tibo, biyom chamishi. Il même te dit la date et tout, qui était Shisha Yamim le Chodesh Marcheshvan. Il te dit, quand je suis arrivé, j'ai été là-bas, j'ai été prié, au Harabait. Et c'est le même Rambam qui te dit que c'est Mamash Bikdusha, que la Kdusha elle continue. Donc, Rabotai, vous vous rendez bien compte que pendant toutes les générations, tous les grands rabbanim qui sont venus ici avaient, et que les goyim leur permettaient à cette époque-là, eh bien, ont eu bah, le minag de venir ici, de monter sur l'Arabaït et d'y prier. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Si dans toutes les générations les rabbanim l'ont fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on ne le fait pas? La question ne se pose pas. Mais après, la question va se rassembler et va se poser la question. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? La majorité des rabbins étaient très réticents. Pourquoi? Parce que, un, ils pensaient que, après tant d'années, eh bien, on ne sait pas véritablement où on a le droit d'aller, où on n'a pas le droit d'aller. Et il n'y avait donc pas encore les mesures du Rav Goren, il était en train de les faire. Et deuxièmement, ils avaient très peur que, vu que la majorité des juifs ne connaissaient pas du tout les halakhot, si on permet de monter sur le mont du Temple, les gens vont s'y comporter n'importe comment. N'importe comment. Et ils ont montré cela tout simplement de ce qui s'est passé pendant la conquête du Harabait de la vieille ville. Puisque les Khayalim sont arrivés et ont fait du Harabait un, qu'on appelle Kapandria, c'est-à-dire ils en ont fait un raccourci pour arriver au Kotel. Alors qu'en fait, Harabait est beaucoup plus important que le Kotel. Et donc, ils se disent, attends, si on permet comme ça à Israël de monter au Harabait, les gens, ils vont venir n'importe comment. Et on est obligé de reconnaître qu'ils avaient raison. Je veux dire, Chacham et Nav Berojo. Je veux dire, les choses sont évidentes. Moi, je suis désolé, je suis guide touristique en Israël, en plus d'être rabbin. Je peux vous assurer que ça me fait mal au cœur. Mais mal au cœur. Je ne parle même pas des goyim. Qu'il y a des goyim qui se baladent dans n'importe quel endroit dans le Harabait. Je ne parle même pas des musulmans. C'est pas des touristes. Ça fait mal au cœur de voir également plein de touristes juifs qui montent au Harabait et qui s'y comporte n'importe comment. Et vas-y que je te tape du selfie, et vas-y que je te tape des blagues, machin. C'est un horreur. On n'a pas le droit d'être de caloutroche. Donc, la Rabbanut Arachit l'Israël, quand elle te dit on n'a pas le droit d'y aller, eh bien, elle te dit on n'a pas le droit d'y aller parce qu'elle a peur que les gens y fassent n'importe quoi. Le Rav Goren, le Rav Shlomo Goren, qui était à cette époque-là le grand rabbin de Tzahal et qui est devenu plus tard le grand rabbin d'Israël, eh bien, va tout faire pour quand même permettre d'y monter. D'abord, il fait donc ces fameuses mesures qui donc permettent de bien déterminer où étaient les choses. Et donc, d'après le Rav Goren, et puis ce n'est pas le seul, eh bien, il te dit, je sais où était ce qu'on appelle Machane Levia et où ça s'arrête et où commence Machane. Et donc, Rav Tzihouda avait suivi l'enseignement de son père. Il a dit, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, il disait, il ne faut pas y aller. Et il ramène comme exemple le baron de Rothschild qui a été là-bas. Il dit, il a fait tellement de bien cet homme-là à Israël, c'est extraordinaire. Mais ce qu'il a fait à monter là-bas en état de Touma et fait n'importe quoi là-bas, c'est terrible. Et donc, il ne faut pas permettre aux gens d'aller là-bas. Donc, on voit que la Rabbanut Arachit, elle avait peur de l'archil et Tarabim, de faire tomber la majorité des gens en disant, c'est bon, open bar. Le Rav Goren dit, mais bien sûr qu'on ne va pas leur permettre de faire tout et n'importe quoi. Mais il faut permettre, là où c'est permis, d'y aller. Et finalement, la Rabbanut Arachit va se réinstaller pour rediscuter de la proposition du Rav Goren. Créer une synagogue sur le Harabat. La Bakasha ne vient pas du Rav Goren, elle vient du Rav Shar Yashuv Cohen, qui était le fils du Rav Anazir et qui était le beau-frère du Rav Goren. Et donc, c'était ça l'ambiance. Le problème, c'est que Moshe Dayan, de l'époque Sarah Bitachon, a tout simplement décidé d'ignorer la demande, de mettre un petit peu un passe, comme on dit à la Rabbanut Arachit, et de donner les clés de la gestion du Harabat au Wakf. Au ministère, enfin au truc qui s'occupe d'organisation qui s'occupe des lieux saints musulmans jordaniens. Et à partir de ce moment-là, le Rav Goren a décidé de ne pas faire une milchama ouverte à Rabbiton, et ben, ça a donné le statut qu'on connaît aujourd'hui. Seulement, il y a quelques années, la Rabbanout a décidé de se réinstaller pour voter, de changer l'écriteau qu'il y a à l'entrée du Harabait, où il y a marqué « la Rabbanout interdit complètement de Harabait ». Depuis le Rav Goren et depuis le Rav Eliyahu, eh bien, ils ont décidé qu'il fallait changer la plaque, disant que Yesh Machoket, Yesh Rabbanim Shimot Matirim, Yesh Rabbanim Shiosrim. Et après, donc, chacun un truc. Il est évident que ce qu'on aurait pu faire à l'époque du Rav Goren, c'est tout simplement installer des barrières là où ils pensaient que c'était interdit et ouvrir le reste avec des petits cotes de Tvila. Bon, je ne sais pas comment ça aurait pu être géré. Aujourd'hui, qu'est-ce que disent les rabbins qui interdisent? Les rabbins qui interdisent, ils te disent, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où c'est, parce que c'est dangereux. Je ne te parle pas des rabbins qui te disent, ça risque d'attiser la haine des goïms. Ça, c'est des ch'touyot. Ch'touyot de mitzakvaniot. Le simple fait qu'on soit à Tel Aviv, ça attise la haine des goïms. Donc, c'est des bêtises de dire que monter sur l'Arabaït, ça, ils ne veulent pas qu'on soit nulle part. Il faut arrêter de dire des bêtises. Donc, ça, c'est pas recevable. Ce qui est recevable, c'est de dire, nous, on n'est pas d'accord avec le Rav Goren de dire qu'on sait où c'est. Depuis le Rav Goren, il y a quand même pas mal d'autres personnes qui ont fait des Merkarim, des Médidotes, le Rav Israël Ariel, le patron du Machon Amikdash, qui t'a dessiné clairement où sont les choses et il semblerait qu'il n'y a vraiment plus de doute. Et donc les Rabbanim qui permettent aujourd'hui, permettent évidemment uniquement après avoir été en état de Tahara, de pureté, et après avoir été apprendre ce qu'il faut faire quand on monte sur le mont du Temple, c'est pas n'importe quoi. Et donc on va pouvoir trouver là-bas des Rabbanim qui ne sont pas des moindres, parce qu'évidemment, si tu veux trouver des raves qui interdisent, t'en as plein, bien sûr, en milieu, hein, bien évidemment. Mais tu vas avoir des rabbins pas petits non plus qui permettent, comme j'ai dit, on va parler du Rav Goren, on va parler du Rav Ariel, du Rav Rabinovitch, du Rav Medan, du Rav Shaul David Bosco pour les Français qui connaissent, du Rav Tzvania Drori, l'Ochasser, Rav Sharia Shuva Cohen, l'Ochasser. Mais qui sourd, aujourd'hui, il y a une véritable marloquette. Ceux qui veulent monter, évidemment, qu'après avoir étudié les halakhot et après s'être trempé dans le mikvé et faire très attention de ne pas avoir été en contact avec de l'impureté entre le mikvé et le moment où ils y montent, bien évidemment qu'ils ont al milismor. Évidemment qu'ils ont des pas petits rabbins du tout sur qui ils s'appuient et ils peuvent tout à fait donc monter Bigdusha. Le din kiddush n'est-il pas prépondérant? Oui, selon le Rav Israël Ariel, par exemple, le Rav Goren, Rav Tzihouda te dit, le din kibouch, il est prépondérant, mais c'est bon, il est fait par les policiers qui sont en station là-bas. Donc, tu n'as pas besoin, toi, de le faire. Mais encore une fois, ceux qui veulent y monter, ceux qui ne veulent pas y monter, ben, ils n'y montent pas. Mais ceux qui veulent y monter, eh bien, ont évidemment, halachiquement parlant, al-milis mort, mais bekef, quoi. Évidemment, il ne faut pas aller là où on n'a pas le droit d'aller, et il faut aller que là où on a le droit d'aller, be kdusha, be tahara, et be mora gadol. Tu ne vas pas à Disneyland. Tu vas au Beth Amikdash. Et donc, tu as ces cinq mitzvot à réaliser. Et la plus importante, à mon sens, Mora Mikdash, elle est fondamentale. Mais c'est une mitzvah extraordinaire. C'est une mitzvah extraordinaire. Je ne te raconte pas ceux qui montent pendant les Chagim, où en plus de ça, ils font mitzvah Re'iya. Et donc, c'est absolument une dimension absolument extraordinaire. Maintenant, ça, c'était au niveau purement et simplement halachik. Au niveau Ra'ayoni. Même si c'est vrai, même si c'est vrai, que le kibouch est fait par la conquête est faite par le fait que la police soit là-bas et que c'est chez nous et qu'il y a un drapeau d'Israël et tout ce que tu veux. Il est fondamental. Il est fondamental de bien comprendre que si Am Israël veut pas aller à cet endroit-là, ben ça va pas aider l'égoïme à penser que c'est chez nous. Par où ? Et donc il paraît évident. Aujourd'hui, il faut réveiller le sujet du Beth Amikdash, le sujet du Harabait au sein du peuple juif. Parce que si nous ne nous y intéressons pas, il ne faudra pas venir se plaindre que les goyim y viennent et ils font n'importe quoi. Toutes les personnes qui ont mal au cœur de voir des juifs monter l'Obik Doucha, quoi, ils n'ont pas mal au cœur de voir Shoalim Olchimbo, de voir ces goyim faire n'importe quoi là-bas, et je parle tant des musulmans que des touristes qui sont pas méchants, tu vois, mais qui vont là-bas comme s'ils allaient visiter le Stade de France. Mes amis, Zarabait, si nous, on ne montre pas qu'on le respecte et qu'on l'aime et qu'on le veut, il ne faudra pas s'étonner que... Ben voilà. Donc voilà, c'était notre petite rétrospective Beth Amikdash, six cours sur le Beth Amikdash. La semaine prochaine, on ouvrira un nouveau sujet du dimanche matin. Je ne sais pas encore lequel, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, en attendant, chez Niske, le Binyan Beth Amikdash, et qu'il n'y ait plus de doutes, et qu'on puisse tous y aller ensemble, Gam Beth Tahara Mitu Matmet, et qu'on puisse aller y faire des korbanot, Bekef, ou Besimcha, ou Bikdusha, ou Beth Tahara. À bientôt, les amis!